Vous écoutez Radio FMR sur les 89,1 mégacycles en modulation de fréquence analogique sur Toulouse. Bonjour et bienvenue. Nous sommes en direct du Mixar Meris et du Theta Lab pour le THSF Festival. Et en fait, je m'entends pas du tout dans le casque.
Mais ça marche bien. Fait,
oui, oui,
ça marche bien, ouais.
C'est Factory.
C'est le Toulouse Hackerspace Factory. Mais
Factory,
oui, mais,
c'est important.
Mais arrête, c'est pas encore à toi, David. C'est la première fois qu'on fait ça. Non, pas un direct pendant le THSF. Ça, on n'arrête pas de le faire chacun de notre côté. Enfin, ça fait pratiquement. Le Toulouse Hackerspace a été lancé en 2009. Donc, nous, on a dû commencer à faire le direct depuis 2011, hein, je crois. Et donc, ben, en fait, c'est la première fois, je crois, que depuis toujours qu'on n'a jamais fait de crypto-party en direct dans une radio. Pour une raison toute simple. Parce que, tout simplement, en fait, le principal problème, c'est qu'on fait des saisies, des fois, vidéo, mais les gens disent « Oui, mais je ne veux pas voir ma figure à l'antenne, etc. » Et donc, forcément, ça pose un problème. Puisque nous, on se retrouve, en fait, avec des captures vidéo, mais on ne peut pas les diffuser. Donc, du coup, bah, on le fait à la radio, puisqu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas venir à chaque fois. Donc, c'est diffusé en même temps en FM. Ce sera disponible après en podcast. Et on aura un super programme, puisqu'on aura, donc, jusqu'à 16h, il y aura à 14h15 comment choisir un mot de passe solide avec David Venatio. Bonjour.
Salut.
À 14h30, pourquoi chiffrer avec Simon Prévidente qui est derrière. Oh là. Coucou. À 14h45, il y aura une interview de fou de ex-Télécomics et surtout actuellement Reporters sans frontières. Donc ça va être extrêmement intéressant sur comment on fait justement pour protéger les communications pour des secteurs qui sont extrêmement sensibles et qui sont à la base de la démocratie dans des pays qui ne le sont pas vraiment, notamment la Corée du Nord, l'Iran ou encore la France. 15h15, on va parler en fait justement des outils qui sont utilisés par RSF. Donc on va parler de Tor avec Solarus. 15h30, on va parler de Tails avec notamment Bikepunk. Donc c'est une distribution Linux assez particulière qui rend votre PC complètement amnésique. Et après, eh ben, on fera un petit rappel du programme du THSF et tout le reste. Et derrière, ça hurle pas mal, puisque en fait, on a le début des conférences qui commencent. Ouais, mais à vrai dire, faut peut-être expliquer d'abord avant tout ce qu'est qu'une crypto-party. Alors, une crypto-party, il y a une traduction française, en fait, qui est assez rigolote, qui s'appelle, en fait, chiffre au fait. Et c'est vraiment l'idée. C'est-à-dire, on va essayer de démystifier derrière tout ce qui est, en fait, le numérique, tout ce qui est, justement, la sécurité informatique et tout le reste. D'abord, en vous faisant comprendre l'informatique. Ensuite, à partir de là, en vous faisant comprendre les traces que vous laissez sur Internet quand vous surfez, ou même à la moindre opération que vous faites. Ensuite, en protégeant son identité, protéger son identité, c'est pas seulement la rendre anonyme, c'est aussi en fait garantir que ce que vous dites vienne bien de vous pour les personnes qui sont en face de vous. Et enfin, comprendre les implications juridiques et politiques de la moindre de nos actions que l'on fait sur Internet ou même dans l'informatique en général. Et en fait, ben, on est continuellement sur Internet, donc même ce qu'est que la privacy à la base et la vie privée, la vie publique à partir de là. Alors ouais, j'ai défini vaguement hein, en creux ce qu'était la crypto-party. Bon déjà, on va expliquer ce que n'est pas une crypto-party. D'abord, ça n'est pas une secte. Premier juré, on n'est pas là pour vous dire « Non, communiquez moins, etc. » Non, si on dit ça, on aura complètement loupé. Non, la question, elle est plutôt inverse. C'est, au contraire, c'est vous allez garder en fait votre communication, etc. Mais vous allez peut-être justement essayer de communiquer plus à partir de là sur ce que vous savez. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est vraiment ce que l'on vous demande. Ensuite, il y a aussi des gens qui arrivent des fois avec leur tour PC. Eugène Lowe, notre réalisateur, est arrivé avec la sienne en disant « Ouais, ce matin, elle est tombée en panne encore une fois. Je l'ai jeté 3 fois en l'air et elle n'a pas redémarré. » Non, on n'est pas là pour réparer votre PC. Par contre, des fois, il y a des crypto-parties autour. Ça tombe très bien puisque derrière nous, donc il y a les ateliers soudure, des ateliers d'imprimante 3D, etc. Il y a aussi de l'install party qui a lieu derrière pendant le THSF. N'hésitez pas. On n'est pas non plus là pour des activités illégales. Pardon. On n'est pas là pour les activités encore illégales. Je le précise. Même si la loi n'est pas encore passée. Non, vraiment, sincèrement. C'est normal que l'on protège sa vie privée. C'est normal que l'on garde une certaine confidentialité. C'est relativement important. Mais par contre, on ne va pas vous aider justement à faire des activités illégales pour une raison toute simple, c'est que sinon on ira en prison et ce serait franchement pas cool. On n'est pas là pour modifier un compte Facebook d'une ex qui dit des vacheries dans votre dos, etc. Non, ça, vous le laissez, vous lui laissez vous, le soin de discuter avec votre avocat. Bon, attendez quand même. Et on n'est pas là non plus pour un projet de start-up si vous avez une super idée pour faire le prochain MySpace et tout ça qui y coulera évidemment avant même que vous le lancez. Non, ça n'est pas notre rôle, loin de là. En fait, on n'a rien à vendre. C'est ça qui est important à dire. Mais par contre, on a énormément à partager. Mais surtout, c'est vous qui allez guider la crypto-partie au bout d'un moment. On va poser des questions, des réponses. Et ça va justement aider à partir de là à mieux comprendre. C'est à vous, en fait, à faire le programme. On vous a donné, en fait, des éléments. Et à partir de là, eh ben, on va, au contraire, essayer d'amener à plus de dialogue. Alors, la première crypto-partie, elle commence d'abord par une loi, encore une. Mais pas une loi qui passe maintenant, c'est une loi qui est sortie en 2011 en Australie, la Cybercrime Legislation Amendment Bill, où en fait cette loi décrète que toute donnée sur Internet est conservée pendant 2 ans. C'est-à-dire la moindre opération que vous allez faire, la moindre relevé de compte en banque, la moindre consultation sur Wikipédia ou le moindre email que vous envoyez à l'avocat de votre ex va être conservé pendant 2 ans. Et que la police peut s'en servir à n'importe quel moment pour lancer une opération judiciaire contre vous. On ne sait jamais. En août 2012, au moment où la loi justement va commencer à se mettre en place en Australie, et bien sur Twitter, les activistes discutent entre eux et en fait se rendent compte que le problème n'est pas purement australien. Le problème existe depuis une dizaine d'années aux États-Unis. Il existe aussi par ailleurs principalement dans les pays européens, mais il existe aussi en Russie, il existe aussi en Chine, un peu partout. Et il y a une personne, c'est une jeune femme en fait, qui dit « Très bien, mais vous me parlez de vie privée, vous me parlez d'outils comme par exemple chiffrer, vous me parlez de sécuriser mes données. Et moi, je ne comprends pas, si au moins on m'expliquait. » Et en fait, la première crypto-partie vient de là. L'idée, c'est d'expliquer au grand public justement ces outils, soi-disant de hackers et tout ça. Non, c'est des outils industriels, bien souvent. Et comment justement tout le monde peut s'en servir et comment on peut l'utiliser chacun de son côté. Eric Hughes, qui est le fondateur du mouvement Cypherpunk, qui est justement dans le début, je vais dire, hein, de déchiffrement au début des années 90, va dire en septembre à Amsterdam que c'est remettre le personnel dans l'informatique personnelle. Et c'est vraiment ça, en fait, vraiment l'idée. Le 1er octobre 2012, la première crypto-partie à Toulouse a lieu. C'est juste derrière, juste à côté du hangar du Theta Lab. On était une petite trentaine. C'était un petit mercredi pluvieux et il fallait aller tout au fond et tout ça. Et pourtant, il y avait déjà pas que des informaticiens, pas que des artistes ou des personnes engagées. Non, il y avait aussi des journalistes, il y avait aussi des avocats. Il y avait des personnes qui étaient sincèrement, intéressés justement pour protéger les données des autres parce qu'ils les manipulent eux-mêmes. Et là-dessus, c'est relativement important. En décembre, toujours 2012, une crypto-partie a lieu à Hawaï, au fond d'une pizzeria. À une trentaine de personnes, quelqu'un explique que oui, on écoute toutes vos données sur Internet, le gouvernement fait ça alors qu'il promet de ne pas le faire. 6 mois après, Edward Snowden quittera justement Hawaï en catastrophe et amènera vraiment les preuves au grand public sur cette situation. La crypto-partie, c'est 4 règles principales. Je les donne à chaque fois, c'est relativement important, mais soyez parano. Si c'est pas votre matériel, vous posez-vous des questions. Est-ce que la personne à qui vous venez de passer les revues s'est bien lavé les mains après avoir touché le poisson ? Est-ce que... eh oui. Est-ce que, franchement, ce que vous faites dans un cybercafé ou sur un hotspot Wi-Fi, est-ce que vous pourriez le faire avec la même sécurité que si vous étiez chez vous ? Est-ce que, franchement, vous êtes sûr, en fait, de là où vous êtes sur Internet ? Ensuite, il faut recouper les faits. Ben oui, parce que c'est bien beau de partir comme ça sur les suppositions, mais au fur et à mesure, si on vous dit quelque chose, il faut peut-être avoir un faisceau de présomption, vraiment. La 3e règle, c'est partager l'information. Si vous commencez à avoir l'information et si vous commencez à la vérifier, c'est bien justement de la redistribuer aux autres personnes, de voir, ben oui, j'ai vérifié, un mot de passe solide, c'est ça, un ordinateur pas fiable, c'est ça, et à partir de là, ça ira beaucoup mieux. La quatrième règle, et c'est la plus importante, ne soyez pas trop parano. Oui, parce que sinon c'est facile après et on finit par croire que les extraterrestres sont venus sur Terre et ont inventé MySpace pour vous laver la tête à coup de boys band et tout ça. Non, non, c'est pas ça du tout quand même l'idée de base. Une crypto-partie, ce serait quelque chose d'un peu rushé tout ça. Moi, je vais vous proposer 4 bouquins, mais pas des bouquins qui sont des bouquins techniques, etc. Non, non, c'est des œuvres de fiction, vraiment. Le Cryptonomicon de Neil Stephenson, c'est une œuvre de science-fiction qui est sortie à la fin des années 90, qui est traduite en France chez Payot, et qui explique ce qu'est qu'une monnaie numérique. Et en fait, il a vraiment amené ce qui allait être le Bitcoin 10 ans auparavant. Il l'explique d'une manière extrêmement claire quels sont les enjeux derrière. Et en même temps, il explique le chiffrement. Et là-dessus, c'est plutôt bien fait. Une excellente bande dessinée qui s'appelle Media Entity, dont il n'y a que 2 tomes sur les 4 qui sont sortis actuellement aux éditions Delcourt, de Simon et Émile, raconte vraiment ce que serait en fait un pays, au hasard la France, où en fait tous les pouvoirs régaliens seraient unis, seraient délégués à une entité privée par l'État, une entité qui tiendrait à la fois de Facebook et d'Apple. C'est extrêmement glaçant et c'est un sacré polar économique, c'est vraiment une pure merveille. Je vous le recommande, il est très lisible, il est vraiment accessible, il est dessiné en plus par une dessinatrice qui vient du milieu de l'animation, donc c'est super beau à lire, c'est vraiment très clair. Et j'espère que mes collègues qui sont passés juste avant nous sur FMR Crossover le confirmeront, puisque eux aussi ils avaient vraiment beaucoup adoré. Un film de Peter Howitt qui a 15 ans mais qui n'a pas perdu d'actualité, c'est Antitrust, et qui raconte l'histoire d'une entreprise, d'une multinationale de l'informatique qui fournit des systèmes d'exploitation et qui explique comment on peut contrôler indirectement la manière dont les gens réfléchissent, justement en contrôlant les systèmes d'information. C'est avec Tim Robbins en une espèce de Bill Gates visionnaire absolument magnifique. C'est un film franchement que je vous recommande. Et enfin une série qui est diffusée par TF1 qui s'appelle Person of Interest, sur justement tout l'usage assez glaçant. Alors ok, c'est une fiction, mais des fois ce qui est montré, eh ben, c'est un peu déjà le cas. Donc au programme aujourd'hui, eh ben, tout à l'heure on va parler pourquoi chiffrer ces informations et ce qu'est que le chiffrement sur Internet. À 14h45, Faux Zéro, qui est donc l'un des cofondateurs de Télécomix et c'est l'une des personnes en charge de la sécurité informatique chez Reporters sans frontières. Donc là-dessus, c'est quelqu'un qui est extrêmement intéressant. À 15h15, on va parler de Tor. À 15h30, on va parler de Tails, une distrib Linux assez étrange. Mais de suite, on va poser une première question. C'est quoi un mot de passe solide, David? David, bonjour.
Ouais, bonjour.
Comment vas-tu?
Nickel Chrome.
Ah, magnifique.
Donc, yes, alors, donc, je me présente, David Venancio, geek, on va dire, depuis la sixième, hein, en gros. Quoi. Tu vois, je suis tombé au collège, tu vois, devant le club informatique, j'ai fait « Waouh, trop classe !» et tout. Et j'ai foncé donc, dans le club informatique non-stop. Et bon voilà, professionnellement, donc je suis programmeur en informatique industrielle. Et voilà, donc j'ai bossé pour des grands comptes, pour des grosses boîtes, dans différentes sociétés, etc., de services en ingénierie informatique. Voilà, donc j'ai bossé par exemple aussi sur des intranets où la sécurité est très importante aussi, donc des intranets d'entreprise où il y a des millions qui sont investis, donc ils ont besoin de mots de passe solides en fait.
Puisque... Et le gros problème en oui. informatique, c'est que c'est l'humain en fait qui est la plus grande faille.
Ah oui, bon, là, de toute manière, il y a le facteur humain, donc ça on peut pas.
Alors,
si tu veux, il y a des manières de sécuriser au niveau facteur humain, mais c'est surtout contractuel. Quoi. Aujourd'hui, quand tu rentres dans une entreprise, par exemple, tu as le contrat de confidentialité, et donc tu, par exemple, il faut par exemple essayer de pas te faire, il faut pas que tu divulgues des informations de l'entreprise. Et par exemple, c'est pas bon si tu te fais hacker ton laptop dans un aéroport et que tu divulgues sans faire exprès des data de ton entreprise. Et si tu as un mot de passe de 3 caractères qui fait 1, 2, 3, forcément, ça sera de ta faute, quoi. Et voilà.
Mais en fait, la question, elle se pose aussi pour le particulier. Quand on utilise le même mot de passe partout, c'est pas bon.
Voilà, et effectivement, alors ça c'est bon, y a, disons pour faire un mot de passe solide, il n'y a pas 30 000 solutions. Déjà, il faut plus de 8 caractères. Voilà, donc 8 caractères, ça fait à peu près 13 milliards de possibilités, je crois, de mémoire. Hein, je sais pas, tu me dis si je me trompe.
Ça dépend sur ajouter les accents.
Voilà, alors, donc en gros, donc, les personnes qui essaient de faire des intrusions sur des systèmes distants donc, utilisent la technique du brute force. Voilà, le brute force, c'est on prend un fichier avec, donc, qui s'appelle un dictionnaire de mots et on essaye chaque mot sur le système distant. Donc ça s'appelle du brute force parce qu'on essaye 100 000 mots, 200 000 mots, 1 million de mots. Et voilà, tant qu'on a accès au serveur distant, ben, on essaye des mots. Et voilà, donc c'est une attaque typique dans le, on va dire, dans l'intrusion. Et voilà, donc d'où l'intérêt c'est d'avoir des mots de passe longs, puisque plus il y a de caractères, plus il y a de possibilités dans le... Donc,
Et puis on dit brute force, donc force brute brute force, mais en fait c'est un sont des ordinateurs qu'on programme, les ordinateurs sont patients et ne s'arrêtent pas pour dormir, donc ils ne s'arrêtent jamais.
Tout à fait. Et donc bon, bah, c'est l'avantage en plus. Alors si tu contrôles un botnet, tu peux carrément lancer ton botnet sur donc du brute force.
On va expliquer un botnet. Donc c'est des milliers d'ordinateurs que l'on contrôle à distance, en général de particuliers qui sont faits pirater ou des serveurs qu'on loue pour vraiment pas cher. Et donc, c'est si jamais le mot de passe est trop évident, trop facile, il peut tomber vite.
Et donc il faut savoir que les mots de passe, bon, il y a plusieurs manières de les obtenir hein, quand quelqu'un cherche à faire une intrusion. Par exemple, il peut installer donc un Trojan, donc un petit programme qui reste en arrière-plan et qui est invisible sur un ordinateur. Donc tout ce que vous allez taper sur le clavier va être enregistré, par exemple. Et donc le Trojan ou le Keylogger peut envoyer ce que vous tapez sur le clavier à distance, et donc votre mot de passe peut aussi tomber comme ça. Donc si tu veux, il faut en plus, pour sécuriser son système, il faut cleaner son système, ne pas installer d'exécutables pourris avec des Trojans, des rootkits et tout autre malware. Voilà, donc il faut des mots de passe longs, donc un minimum de 8 caractères, et donc les meilleures pratiques, en anglais best practices, c'est sur les mots de passe. Donc il y a beaucoup de consultants et de documentation sur ça. C'est une évidence, quoi, quand on est dans l'informatique. Quand on n'est pas dans l'informatique, on se dit ouais, c'est bon, dans mon village personne n'a le net, de toute manière, ou je sais pas, des trucs comme ça. On minimise à fond ça et on se dit bon, il y a aussi le fameux truc de j'ai rien à cacher, etc. Et, en général, c'est les gens qui débutent.
Ça, c'est un piège.
Voilà, tout à fait ça. Tu as des arguments aussi sur ça. C'est que il faut de la sécurité sur son ordinateur, puisque ça concerne sa vie privée, ses petites photos de souvenirs, etc. Enfin voilà, c'est
un truc idiot.
Liberté
en fait.
D'expression, ça permet aussi d'être dissident en toute liberté.
Même de se poser la question, c'est la police, c'est ci, c'est ça, etc. Non, pas du tout. Pensez que un ordinateur, quand vous vole, c'est quelqu'un qui va envoyer des lettres à votre place, à vos amis, à votre famille. Et donc, il peut leur dire, est-ce que tu peux m'envoyer 500 euros en liquide, problème, je suis dans la merde.
Tout à fait, il y a le problème de l'usurpation d'identité. Alors,
c'est le plus important avant même.
Donc, alors, attention, c'est comme une pièce d'identité aussi. D'ailleurs, les clés de chiffrement aujourd'hui, PGP, quand on génère une clé publique, clé privée, etc. Donc, on permet de signer ses emails, par exemple. Ça, c'est une des premières fonctionnalités, effectivement, qui est géniale.
On va en parler tout à l'heure de tout le reste, mais avant même tout ça,
c'est important. Meilleures pratiques, j'en étais aussi aux meilleures pratiques sur les mots de passe. Donc surtout ne pas utiliser des mots de passe basiques en dessous de 8 caractères. Et il faut mixer bien sûr de la ponctuation et des chiffres. Voilà, pour être rapide. Si possible, utiliser des moyens mnémotechniques pour s'en rappeler, mais ne surtout pas noter les mots de passe, quoi, sur des post-it ou des trucs comme ça. Bon, ça c'est j'espère qu'il y a quand même plus personne qui fait ça, quoi, de nos jours, hein. Et donc là je vous laisse avec votre conscience, c'est je le fais encore. Ne jamais noter de mots de passe.
David, c'est bien beau, donc un mot de passe on se le garde pour soi, mais comment c'est stocké sur les serveurs en face? Est-ce qu'en général c'est bien stocké ou si c'est mal stocké, comment éviter la catastrophe?
Alors, quand c'est bien stocké, par exemple, un mot de passe est stocké en SQL dans une base de données sous forme chiffrée. Donc on utilise une petite fonction qui s'appelle MD5 pour chiffrer un mot de passe. Par exemple, quand vous tapez votre nouveau mot de passe d'utilisateur, vous créez un
compte.
Tu te
fais chambrer parce que c'est pas le bon H. Chat 256. Hein,
ça dépend, mais disons que on peut stoquer. Bon. Oui, mais ça, c'est des détails techniques. Mais si
il y a des fois où c'est envoyé en clair carrément.
C'est
stocké en clair.
Ça peut être stocké en clair. Voilà, je disais quand c'est bien chiffré, quand c'est bien stocké, donc c'est stocké chiffré dans la base de données. C'est-à-dire que même les administrateurs ne peuvent pas faire d'usurpation d'identité. Tu comprends? Si le système distant stocke les mots de passe en clair, même des administrateurs de l'entreprise, ou s'il y a un leak, c'est-à-dire que s'il y a une fuite chez votre hébergeur et que ils se font voler la base de données des utilisateurs, là à ce moment-là, le hacker ou le pirate, on va dire l'attaquant, pour pas sortir le mauvais terme, l'attaquant, lui, va disposer d'une base de données de millions d'utilisateurs avec des millions de mots de passe en clair. Donc c'est très important aussi de stocké en SQL et dans les bases de données en chiffré. Donc les mots de passe des utilisateurs en cas de fuite de la base de données. Voilà. Donc
ça veut dire que ces mots de passe, ils vont les essayer sur d'autres serveurs, en général sur Gmail, Facebook, voilà. Yahoo.
Tout à
c'est
fait.
Facile.
D'où l'intérêt de ne pas utiliser le même mot de passe sur tous ces comptes. Donc il faut bien sûr avoir différents mots de passe varier surtout et utiliser des moyens mnémotechniques. Moi c'est ce que je fais, voilà, j'utilise 10 caractères en général, 10-12 caractères.
Alors il y a une autre astuce dont j'ai entendu parler, c'est d'utiliser des mots, de prendre des mots complets et d'en faire des phrases longues.
Burk. Alors oui, pour les passe-phrases peut-être, mais c'est brute forçable. Quoi. On va dire que tout ce qui est...
À condition que ça fasse une phrase cohérente, ça risque d'être...
Mais tu peux faire une phrase incohérente, vraiment, il faut pas... Non, justement, il faut pas être logique. Mets-toi à la place du programmeur qui programme son automate, si tu veux, à brute forcée, quoi. Lui, il va se dire, comment on raisonne? Et ils sont déjà passés par là, il y a des programmes pour brute forcée. Et par exemple, on sait quels sont les mots de passe les plus utilisés. Il y a des statistiques sur les mots de passe les plus utilisés. Donc, par exemple, il y a 1, 2, 3, 4, 5, je crois que c'est le numéro 1 du top 10 des mots de passe les plus utilisés. Après, on a bien sûr AZERTY, QWERTY en fonction des claviers.
Mot de passe, password.
Password est super utilisé à l'international, puis en anglais, quoi. Faut pas oublier que les mots de passe en français. C'est vrai qu'en français, d'ailleurs, on est bien avec nos CCDI et tout ça. On a quand même des caractères spéciaux qui font que c'est plus dur de brute forcer des passwords français, quoi, en fait. Donc, si vous voulez, mettez de la ponctuation, des caractères bizarres. Et des mots de passe, je vais pas aller jusqu'à un poème, mais. Par exemple, pour les passe-phrases, pour les clés publiques, les clés PGP, on peut taper des grosses passe-phrases, quoi. Et donc, il faut justement pour une signing party, un des prérequis, si tu veux, c'est de prouver que tu es le propriétaire d'une clé. Donc, en général, tu signes ta clé devant la personne, tu lui dis, regarde, c'est bien moi.
Ça, avant même d'employer ça, attends, je te parle de règles qui est applicable par tout le monde. Tout le monde ne va pas générer des clés PGP dans l'immédiat.
Non,
mais c'est pas faisable.
Mais dans ce cas-là, je parle
mais
un
déjà
peu loin
du micro. Les règles de base, donc c'est un mot de passe long.
Tout à fait.
Des caractères compliqués.
Oui.
Jamais deux fois le même mot de passe, ça va être dur.
Alors, ça va être dur, oui, il faut se péter un neurone ou deux, quoi, tu vois, c'est. Ouh là là, mon Dieu.
Et ne pas le noter à côté de son PC.
Voilà, oh tout à fait. Donc, il faut faire un effort quand même, c'est vrai. Il faut faire un effort, mais derrière, il y a ce qu'on peut dire, c'est un peu un gros mot, mais il y a une valeur ajoutée, quoi. Une valeur ajoutée, ça veut dire. Ça vaut le coup de se prendre la tête. Pour vulgariser un peu le truc, c'est que ok, c'est chiant de chiffrer, mais c'est vraiment ça vaut le coup puisque ça permet la liberté d'expression, quoi. C'est juste énorme, voilà.
Merci David. Yes. On se fait une petite coupure. Merci d'être venu à cette première crypto party radiophonisée sur Toulouse. Radiophonisée.
C'est faire des badges ensemble, car ensemble tout devient possible. Le DIY, c'est faire des t-shirts ensemble, car ensemble tout devient possible. Ensemble, tout devient possible, car l'union fait. possible. DIY, c'est réparer des vélos. Mais pour amener les bières, il vaut mieux une auto. Ensemble, tout devient possible. Car l'union fait la force tranquille. Ensemble.
Vous écoutez Radio FMR pour une crypto partie donc entre amis au THSF, c'est en direct et en public, vous pouvez venir à côté de nous. Donc derrière, il y en a qui apprennent de la soudure, il y en a qui, il y a nos amis de Data Airmine qui présentent un jeu qu'ils ont fait en réalité virtuelle avec un petit casque en carton et un smartphone, et on fait des trucs phénoménaux. Et puis, il y aura plein de choses tout à l'heure. Il y a notamment une conf qui vient de commencer sur l'ordinateur quantique, sur justement ce que ça amène vis-à-vis du chiffrage et de la solidité, et notamment comment chiffrer les communications.
Oui, c'est le temple du DIY, quoi. Et DIY, c'était le titre du morceau qu'on vient d'écouter. C'était Trotsky Nautique. Alors, Trotsky Nautique, c'est un projet musical assez barré d'un illustrateur, je ne me rappelle plus son nom, mais il est invité au festival Indélébile.
Qui a lieu en ce moment et où Radio Éphémère sera en direct dans 2h30 à peu près. Ouais. Simon Prévident, bonjour.
Bonjour.
Comment vas-tu ? Approche-toi, n'aie pas peur.
Ça va.
Donc tu es étudiant en informatique, si je me trompe.
C'est ça, je suis en deuxième année de DUT informatique.
Mes condoléances, c'est pas facile tous les jours d'étudier
en
informatique.
Et pire que ça, il se destine, je crois, à l'éducation. Et ben, ça tombe bien, je t'ai demandé de travailler sur un sujet qui est pas évident.
Ouais,
Il faut que tu parles tout près du micro.
Plus près,
okay, d'accord.
Ouais, très bien. Ouais, comme ça.
Alors, je vais essayer de vous parler aujourd'hui de pourquoi chiffrer. Donc, j'ai regardé d'abord sur Internet ce que c'était que chiffrer. Du coup, bah, Wikipédia.
C'est quoi la différence entre crypter et chiffrer ?
Alors, crypter, en fait, c'est pas le bon terme. Crypter, ça voudrait dire que vous ayez.
On cache, en fait.
Voilà, c'est ça. Alors, chiffrer, c'est d'après Wikipédia, c'est rendre la compréhension d'un document impossible à toute personne qui n'a pas la clé de déchiffrement. Donc pour bien comprendre du pourquoi chiffrer, je me suis amusé à regarder du côté de l'histoire. Donc en fait, depuis 45 avant Jésus-Christ, on a commencé à chiffrer. Donc c'est César qui communiquait le premier de façon chiffrée avec ses informateurs à l'autre bout du monde. Après ça, il y a...
C'était les premiers vrais chiffrements, puisqu'avant on cryptait l'information, on la mettait par exemple sur le crâne des esclaves qu'on laissait pousser. Ça veut dire qu'on cache l'info.
Citron, non, on faisait pas le jus de citron.
Ah oui, le jus de citron, l'écriture à l'encre sympathique qu'on chauffe le papier pour révéler, c'est du cryptage. Alors que le chiffrement, ben non.
C'est comme ça que j'arrive à avoir plusieurs meufs en même temps sans trop qu'elles le sachent avec le jus de citron. Ouais, ça marche bien.
Je m'en doutais un peu.
Donc César, lui, prenait simplement une ceinture en fait, qu'il enroulait autour d'un rondin de bois, et c'était le diamètre du rondin de bois qui lui servait de.
Je crois que c'est plus vieux. César, lui, faisait vraiment de la substitution.
D'accord.
Ils faisaient d'autres trucs aussi avec le rondin de bois, mais c'est pas du tout dans l'esprit du chiffrement.
Donc à partir de là, c'est substituer les lettres pour d'autres lettres principalement.
C'est ça. Alors plus tard, en 1920, il y a eu la création d'Enigma, qui servait pour les banques allemandes. Donc là, on comprend bien que le désir de chiffrer, c'était vraiment de rendre. De rendre incompréhensible les informations bancaires au reste des gens qui n'avaient pas les connaître.
Il faut expliquer, c'est que les banques allemandes, en fait, c'est le premier usage civil. Avant, c'était utilisé principalement militairement, etc. Mais surtout, ils envoient leurs informations de virement par télégraphe. Donc ça fait beaucoup de monde qui sont à l'écoute. Donc il faut envoyer un message, que tout le monde sache qu'un message est envoyé, mais pas comprendre le message. C'est ça, en fait, le truc. Donc ça veut dire qu'il y a une mission derrière le chiffrement.
Ouais.
Il y en a plusieurs.
Et d'ailleurs, les banques, elles poussaient à démilitariser le chiffrage à partir de 1999. Alors tout ça, c'est un peu vieux. On a des exemples de gens qui chiffraient bien plus récemment. Par exemple, si je dis 2011, ça vous parle
Dans le chiffrement
que... Oui.
Dans le chiffrement, je ne sais pas.
En 2011, dans l'actualité, on trouvait la révolution du monde arabe. Et ces personnes-là s'en sont servies du chiffrage pour survivre. Par exemple, en août 2011, avec la fin du régime de Kadhafi, on a appris que le service de sécurité traquait sur Internet, torturait, assassinait les citoyens libyens. On a donc la traque était possible grâce à AMSIS, qui est une société de services française, et donc qui interceptait les communications et permettait de cibler réellement. Ces pauvres citoyens. Si je parle du 15 septembre 2011, là, par contre, ça va peut-être plus vous parler, parce que ça a rapport avec Telecomix, le groupe d'activistes, qui a détourné toutes les connexions syriennes pour informer de la surveillance de masse du régime en place. C'est là où on se rend compte que la surveillance de masse, c'est réellement une arme de guerre contre laquelle le chiffrement permet de se protéger.
On parle d'armes numériques, outils, c'est ça.
On avait regardé Les Gardiens du Nouveau Monde, réalisé par Flo Laval le 21 mars à l'Utopia, à l'occasion de la dernière crypto-partie, où justement on voyait Hawking qui nous disait que communiquer avec ces personnes-là, sans chiffrer, c'était réellement signer leur arrêt de mort. Donc on en vient à cette question qui revient du pourquoi chiffrer. Donc chiffrer, ça nous donne trois types de garanties. Ça nous donne la première garantie, il s'agit de l'authenticité, parce que c'est être sûr que le message est bien de la personne qui vous l'envoie, qui ne l'a pas été modifié. Donc là, on traite de l'intégrité, être sûr que le message n'a pas été modifié. La confidentialité aussi, protéger vos données en cas de vol, on en parlait tout à l'heure, mais aussi protéger votre vie d'une surveillance indiscrète, votre vie et celle de vos proches. J'entendais aussi tout à l'heure le « j'ai rien à cacher ». Alors moi, je suis pas d'accord, parce que je pense que tout le monde a des choses à cacher. Et monsieur Zimmermann, qui sera présent tout à l'heure, qui donnera une conférence au THSF, nous racontait que pour lui, que Google ait des infos, admettons, ça le dérange pas vraiment. Qu'il fasse de l'argent sans lui en verser un centime, là, ça commence à le gêner un petit peu. Que les banques ou les compagnies d'assurance achètent ces infos pour lui refuser un crédit, là, par contre, ça le dérange vraiment. Je parlais de protéger les données en cas de vol, mais c'est aussi pour un journaliste protéger ses sources. Pour un médecin, c'est protéger ses dossiers médicaux. Pour vous, c'est protéger vos communications avec vos enfants, à l'âge où ils sont pas forcément, où ils n'ont pas forcément assumé non plus toute leur communication, où leur esprit est en train de se former. Il me semble, Xavier, que tu as un ami pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui est convaincu, qui travaille sur Thunderbird, qui est convaincu qui est ici d'ailleurs.
Ouais, Ludovic Erilman, voilà.
C'est ça. Qui est convaincu que si tout le monde chiffrait, bah, le spam commencerait à coûter trop cher et du coup qu'il y en aurait moins.
Alors, le problème, c'est est-ce que tout le monde peut chiffrer ? Est-ce que c'est facile ?
Alors oui, tout le monde peut chiffrer aujourd'hui. C'est de plus en plus simple. Il y a des personnes qui travaillent énormément du côté du logiciel libre pour justement permettre de démocratiser, de simplifier toujours plus ces méthodes de chiffrement.
Eugène, tu avais peut-être une question, excuse-moi.
Ouais, non, en fait, si je comprends bien le truc, c'est que si je chiffre pas toutes mes données, tout ce que je publie, je donne un pouvoir progressivement énorme aux sociétés qui enregistrent, qui revendent et qui après exploitent ces données à mon dépens.
Ouais.
Je vais subir la politique de société parce qu'elles imaginent tout savoir sur moi, elles imaginent que je pense comme ça et que je fais ça toute la journée, c'est ça en fait.
C'est ça. Donc chiffrer permet justement de protéger tout ça.
Alors quels sont les inconvénients du chiffrement ? Parce que du coup, comment on fait pour communiquer avec quelqu'un si on n'a pas la clé ?
Alors... Le premier inconvénient, c'est le temps que ça prend. C'est-à-dire que c'est mettre en place des solutions, apprendre à utiliser de nouveaux outils et se confronter à des fois ce néant d'informations. C'est-à-dire qu'au début, on ne sait pas bien comment chiffrer, comment ça se passe. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on sensibilise, c'est pour ça qu'on apprend, enfin qu'on est là pour diffuser cette information. Maintenant, après, le gros souci que certains peuvent y voir, c'est que pour le moment, on n'est pas nombreux à chiffrer. Et à partir de là, dès l'instant où vous chiffrez, vous êtes peut-être considéré comme un suspect. Après tout, on a des lois qui passent, qui rendent toujours plus suspects ces personnes qui cherchent à chiffrer leur communication comme si elles avaient quelque chose à cacher. Ouais.
Justement, on a un projet de loi, enfin c'est presque une loi maintenant puisqu'elle est en train de se voter sur le renseignement. Comment ça se positionne par rapport au chiffrement? Cette loi, elle vise à l'interdire législativement, le chiffrement, ou elle vise justement à décourager plus les gens de l'utiliser?
Alors cette loi, elle va toucher, alors d'après leur dire, elle va toucher les métadonnées. Alors déjà, j'ai un premier problème avec,
des métadonnées anonymes.
Des métadonnées anonymes. Alors déjà, le premier problème, c'est que je me souviens de l'audience au Sénat de James Clapper, directeur de la NSA. Il avait une audience au Sénat américain
précise,
en 2013.
Oui.
Où on lui avait demandé est-ce que la NSA collecte tout type possible de données sur des millions ou des centaines de millions d'Américains. Il avait fourni la réponse non, monsieur. On lui avait demandé de préciser, on lui avait dit elle ne le fait pas. Il avait répondu pas volontairement, il y a des cas où on a pu par inadvertance peut-être collecter, mais pas volontairement. Donc à partir de là, je me dis si la NSA américaine commence à mentir, pourquoi nos services de renseignement se contenteraient de donner la vérité quand ils nous disent qu'ils vont regarder que les métadonnées, alors que finalement, ils auraient potentiellement accès aussi aux données, finalement, parce qu'elles circulent de la même façon. Donc après, ils vont pas vous interdire de chiffrer, ils comptent pas le faire, officiellement. La seule chose, c'est que si vous chiffrez, vos données seront collectées, conservées, jusqu'à ce qu'ils puissent les déchiffrer s'ils en ont besoin.
D'un autre côté, le chiffrement, il est très utile sur Internet pour une chose qu'on fait pratiquement tous les jours. C'est tout simplement, c'est acheter en ligne.
Oui, tout à fait, parce que on voit de plus en plus des technologies comme le paiement sans contact se démocratiser. Et finalement, derrière tout ça, il y a du chiffrement.
Pas derrière le paiement sans contact.
Alors malheureusement pas derrière.
T'as pris le mauvais
alors
exemple.
Pas encore, c'est vrai. Le paiement sans contact fait justement l'objet de.
C'est la pire critique, c'est le pire exemple qu'on pourrait donner.
C'est
voilà.
Ça.
Mais c'est-à-dire que quand on va sur Amazon, sur eBay, en fait on est obligé de chiffrer puisqu'on envoie.
Alors vous avez,
on envoie les coordonnées de son compte bancaire.
Déjà, vous les envoyez et si vous faites attention en fait quand vous payez sur Amazon ou ce genre de site là. Vous avez le petit cadenas synonyme du HTTPS qui apparaît en haut de votre page qui vous assure qu'il y a un chiffrement réalisé entre votre ordinateur et les serveurs d'Amazon.
Donc ça, là on a parlé d'un truc qui s'appelle le protocole. Oui. En fait, donc il y a un protocole qui est en clair et un protocole chiffré. HTTPS, c'est vraiment très important en fait quand on va donner un mot de passe ou quand on met justement une autre chose quoi.
Tout à fait.
Ok. Juste une question, c'est combien de temps tient le chiffrement?
Alors ça dépend de la taille de votre clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des clés de 2024, de 248 et plus votre clé est longue. Plus votre message prendra du temps à chiffrer, mais là encore c'est pas énorme, mais plus de temps plus votre clé sera longue, plus vous mettrez de temps à déchiffrer le message sans la clé.
Yes. Et justement le truc c'est que si demain tout le monde se met à chiffrer,
ouais.
L'incident c'est quoi? Ça va poser des problèmes aux industriels, ça va poser des problèmes aux politiques? Parce que c'est beaucoup, finalement, j'ai l'impression, deux entités par rapport à Internet qui veulent toujours contrôler plus.
Alors, et tu oublies aussi tout ce qui est le crime organisé. C'est important aussi de chiffrer contre eux.
Oui, c'est vrai.
Alors, c'est la théorie de Ludovic Erlimann qui pense que ça coûterait tellement cher que le spam disparaîtrait, qu'on pourrait appliquer sur nos clients mail justement un filtre. Permettrait de déclarer comme spam tout mail qui n'est pas chiffré. Ça poserait potentiellement un problème à nos politiques qui pourraient plus difficilement nous surveiller. Après, je pense que c'est les seuls problèmes que ça poserait et pour le gain que ça pourrait apporter.
Idéalement, finalement, dans une démocratie, tout le monde devrait chiffrer.
Carrément.
D'accord. Merci beaucoup, Simon. En tout cas, j'espère que tu vas profiter un petit peu du THSF. Il y a beaucoup de choses. C'est vrai que donc là, en ce moment, on parle d'ordinateur quantique dans une salle de conf à côté.
Ouais.
Et donc, on a, c'est Renaud Lifshitz qui en parle. Et ça, c'est un petit peu dommage. Donc, on est en train de le manquer. Et tout cela, donc, sur justement sur le chiffrement et tout le reste. On fait des crypto-parties de temps à autre avec les gens. On montre ce que c'est qu'intercepter une communication.
Ouais.
C'est assez glaçant en général quand on se rend compte combien des fois on est trop bavard à son insu quand on ne fait pas très attention justement sur les outils qu'on utilise. Merci beaucoup Simon.
À bientôt.
Dave Grimes sur Éphémère, et puis on va continuer avec Braille en attendant le prochain invité de la Crypto Party en direct sur le 89.1 depuis Mixer Miris pour l'édition 2015 du THSF. Il est 14h45. The cat's gone nuts. She don't drink enough. The floor's all torn up. The cat's gone nuts. She don't drink enough. The floor's all torn up. The floor's all torn up. The cat's gone nuts. She don't drink enough. The floor's all torn up. The floor's all torn up.
Back from the ashes, back from the
Qu'est-ce que l'on vient d'écouter, Eugène ?
C'était Orai, extrait de son dernier album. L'album, il s'appelle Mud Swan. Et le morceau qu'on a écouté, c'était The Cats Gone Nuts. Voilà. Et si vous ne voulez pas acheter une oreille sur le dernier braille, c'est vraiment que vous avez tort. Mais c'est bien aussi de le faire de manière chiffrée.
Non, tort, oui, c'est...
C'est pas ça, on va parler maintenant, on va parler de tort.
On va parler de maintenant, oui.
D'accord.
Puisque malheureusement, donc fou nous a fait faux, bon, ça arrive. Puisqu'on fait en fait une émission de radio, au lieu de parler du THSF, on fait une émission de radio dans le THSF, qui est une crypto-partie. Donc j'aime bien les trucs à chapeau dans tous les sens. Solarus, bonjour.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Bien, et toi ?
Magnifique. Simon nous a parlé de chiffrer les données sur Internet. Maintenant, on va parler de réellement les anonymiser.
Oui.
Donc, alors, Tor, par le marteau, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, Tor, non, ça n'a rien à voir avec le dieu nordique. C'est un réseau de routage en oignon, comme son nom l'indique, The Onion Router. Donc, on va router des paquets et on va les dissimuler. Comme un oignon avec ses couches, on va les dissimuler dans plusieurs couches de routage.
Mmh. Voilà. Donc, en fait, c'est comme si on, tout d'un coup, on emballait les cadeaux pour ne plus reconnaître exactement la forme qu'il y a derrière.
Voilà, l'idée, c'est un peu, voilà, comme tu disais, des cadeaux emballés dans des cadeaux ou le principe des poupées russes. Et le but, c'est que quelqu'un qui soit au milieu ne puisse pas savoir d'où vient le paquet, ne puisse pas savoir où est-ce qu'il sort, et s'il trouve un de ses paquets, une de ses poupées russes, il l'ouvre, il voit une autre poupée russe, il peut jamais totalement décapsuler pour voir ce qu'il y a au milieu. En fait, on va partir du principe. Tor, c'est un peu ce que disait Snowden, c'est passer through 7 proxies, passer à travers 7 proxies. Donc le chiffre 7, je le dis au hasard, hein, il peut être plus... moins, je pense pas, mais il peut être supérieur à ce chiffre de 7. C'est-à-dire qu'on va passer plusieurs machines. Une machine d'entrée, qui va être un nœud d'entrée, qui va prendre nos paquets qu'on va lui envoyer et qui va les envoyer dans le réseau Tor. Il y a le nœud de sortie, qui donc va être la sortie du réseau Tor, qui va aller contacter des sites web à notre place pour transférer nos paquets vers l'Internet. Donc on aura une entrée et une sortie. Et au milieu, on va avoir plein de nœuds intermédiaires qui vont être donc des nœuds qui vont passer les paquets, qui vont chacun les chiffrer avec leur clé, les passer à l'autre qui va les chiffrer avec leur clé. Donc voilà, c'est plein de mécanismes de sécurité différents qui vont se cumuler et donc on va détailler ces principes-là, mais voilà, il y a plusieurs couches de sécurité dans Tor.
Alors, est-ce que c'est facile à utiliser pour le grand public ? Alors, parce que quand même se dire, oh là là, il faut configurer 7 proxys au moins et tout, ça va être compliqué.
Pas du tout. Le logiciel, il est très simple d'utilisation pour le grand public, que ce soit sous Windows ou avec Tails. Peut-être,
on en parlera tout à l'heure.
On en parlera tout à l'heure. Mais donc, mettons que vous utilisiez Tor sous Windows, vous avez juste un petit logiciel à lancer, éventuellement accompagné d'une version spéciale de Firefox. Vous initiez une connexion, cette connexion va aller chercher un nœud d'entrée qui est public, la liste des nœuds d'entrée et des nœuds de sortie est publique, la liste des nœuds intermédiaires est moins importante et moins publique, mais vous allez chercher un nœud d'entrée, vous allez tracer un chemin à travers le réseau Tor, donc composé d'un nœud d'entrée, de plusieurs nœuds intermédiaires et d'un nœud de sortie, et donc ce tracé-là vous permet d'être anonyme. C'est ce tracé-là que vous pouvez changer toutes les demi-heures, toutes les deux heures, tous les jours. Donc ce tracé-là permet d'envoyer des données au nœud d'entrée, de ressortir par le nœud de sortie et donc d'être relativement intraçable.
En fait, entre le point d'entrée et le point de sortie, on est très proche en fait finalement de Casa, Napster, de ce qu'étaient les vrais logiciels de peer-to-peer.
Donc
c'est aussi simple à utiliser.
C'est aussi simple à utiliser, c'est-à-dire qu'il y a un exécutable et ensuite le réseau travaille pour vous. Le réseau est intelligent, les machines discutent entre elles, s'arrangent entre elles, et donc ce tracé vers la sortie se fait automatiquement, peut être changé régulièrement pour rester anonyme. Parce que le risque aussi d'utiliser un tracé qui est unique et qui est aléatoire, c'est qu'au bout d'un moment, on va repérer ce tracé et on peut vous repérer. Donc d'où l'intérêt aussi de changer régulièrement de tracé.
D'accord. Mais qui contrôle réellement les nœuds ? Alors, parce que, à vrai dire, si quelqu'un contrôle un nœud d'entrée, alors, c'est il sait beaucoup de choses.
C'est une vraie question. Donc, il faut...
Oui, c'est une vraie question. J'ai mis une interrogative à la fin.
Non, mais c'est une question qu'il faut absolument se poser. C'est-à-dire que à partir du moment, dans le réseau Tor, on est sécurisé. Mmh. Par contre, au niveau des nœuds d'entrée, des nœuds de sortie, on est vulnérable. Puisque le nœud d'entrée va pouvoir voir... Le nœud d'entrée va pouvoir voir tout ce que vous lui envoyez. Et le nœud de sortie va pouvoir voir tout ce qui sort de vous vers Internet. Et notamment, si vous contactez un site web et que vous n'êtes pas en HTTPS, vous allez envoyer vos logins mot de passe. Les nœuds d'entrée et les nœuds de sortie verront les logins mot de passe. Donc, Tor, en fait, n'est qu'une sécurité supplémentaire par rapport au nœud de sortie.
Tu vas y arriver. Ce n'est qu'une sécurité...
Par rapport au chemin. Et ça ne doit surtout pas vous empêcher et on doit vous encourager à utiliser de la sécurité de point à point. Donc, par exemple, SSL, HTTPS, quand vous allez sur un site qui a un cadenas, vous faites du HTTPS et ça, c'est une sécurité supplémentaire qu'il faut garder par rapport à Tor puisque Tor ne sécurise que le chemin. Voilà, ça vous permet d'utiliser un chemin anonyme, comme j'ai dit, aléatoire. Et
alors le problème, c'est que si ces points d'accès sont publics,
oui.
En fait, quand on utilise Tor, on peut le savoir que vous utilisez Tor.
Alors,
il n'y a pas une vraie protection absolue de ce côté-là.
Alors, effectivement, quand vous sortez du nœud de sortie, vos paquets sont entre guillemets identifiés comme étant des paquets Tor. Mmh. Donc, ça augmente. Déjà, il y a des sites qui refusent toutes les connexions venant de Tor, pensant à tort ou à raison qu'il y a des gens malveillants derrière le réseau Tor. Donc vous pouvez vous faire. Oui, à tort ou à raison. pensant que vous allez peut-être commettre des actes malveillants, vont vous jeter du site, donc vous n'allez pas pouvoir utiliser les sites en question. Voilà. Attends, excusez-moi. Et donc en fait, notamment, ça va aussi accentuer la surveillance sur ces paquets étant identifiés comme sortant de Tor, puisque donc si vous utilisez Tor, c'est que peut-être vous avez des choses à cacher. L'argument ultime.
Et puis si au point de sortie, un terroriste se sert du même point de sortie que moi, c'est dangereux pour moi alors.
C'est dangereux pour vous, enfin je pense surtout pour la personne qui opère le point de sortie, parce que c'est elle qui est responsable légalement. Après voilà, c'est comme si vous êtes de facto voisin d'une personne suspecte, vous allez devenir peut-être suspect puisque les méthodes de renseignement aujourd'hui font que si vous avez quelque chose à voir de près ou de loin avec une personne suspecte, on va vous considérer suspect. Mais il y a ce genre de risque à utiliser Tor. Et du coup, l'idée, c'est aussi d'utiliser Tor pour des choses qui n'ont absolument rien de suspect. Puisque s'il y a 100 personnes qui utilisent Tor pour des activités non sensibles et une personne qui a des activités sensibles, mettons des connexions avec un journaliste, du whistleblowing, enfin des révélations à faire à un journaliste, les 100 personnes qui vont utiliser Tor pour des activités absolument pas sensibles et absolument quotidiennes vont protéger cette personne. L'idée, c'est aussi de faire masse en cryptographie en général. Tor, c'est le cas aussi. L'idée, c'est de d'être une masse pour que la personne qui a besoin de protection, que ce soit, comme je disais, une source d'un journaliste, un militant dans une dictature, le fait d'être noyé dans la masse va protéger cette personne. Si on utilise Tor que pour des activités sensibles et qu'il n'y a personne qui fait autre chose avec, et ben, de facto, les personnes qui vont utiliser Tor vont être vulnérables.
Alors, est-ce que Tor ralentit le débit par rapport à l'usage d'Internet normal ?
Alors, la première chose, c'est que Tor n'est pas un Internet normal. Il y a deux choses. C'est que Tor...
Tu veux dire c'est le Darknet ?
C'est une sorte de Darknet, mais avant tout, ça ne prend en compte que le TCP. C'est-à-dire que il faut faire attention. TCP, c'est ce qui est utilisé pour le web. Quand vous allez sur n'importe quel site, les sites web, Google, Facebook, vous faites du TCP. Il y a d'autres protocoles sur Internet, notamment l'UDP et l'ICMP, qui ne sont pas pris en charge par Tor. Et ça, il faut y faire très attention, parce que si vous faites autre chose que du web avec Tor, si vous faites des pings par exemple, vous ne passez pas par Tor. Et vous risquez de vous révéler. Si vous pinguez la cible en même temps que vous envoyez...
Ping, c'est un truc technique. Mais voilà, par exemple, si jamais je décide d'essayer de regarder une série américaine via Tor ou un truc comme ça...
Ça risque rien. Parce que souvent, vous allez faire du web. Mais si vous faites autre chose que du web avec Tor, il faut faire attention parce que c'est pas forcément pris en charge par Tor. Et vous risquez de vous révéler.
D'accord.
Voilà. Donc notamment, ne pinguez pas les sites que vous visitez pendant que vous utilisez Tor, puisque le ping...
Ping étant technique, c'est pas utilisé par tout le monde, donc on a la paix.
Il y a des applications qui font des pings sans que vous le sachiez.
Ah, voilà. D'accord.
Il faut faire attention aussi aux applis qu'on utilise. Pour ne pas se révéler et pour continuer à utiliser Tor de manière discrète.
Alors, dernière question. Il se dit, dans les milieux vachement informés et tout ça, que en fait, les services secrets en fait, aussi utilisent Tor. Est-ce que eux aussi, ils ont créé eux-mêmes des nœuds de sortie?
Alors oui, il y a des services secrets, notamment la RSA, la NSA, qui opèrent des nœuds de sortie pour surveiller le trafic.
Est-ce que c'est dangereux du coup?
Alors, c'est dangereux, oui. Et donc, c'est là l'intérêt, comme je disais tout à l'heure, d'utiliser du chiffrement de bout en bout, c'est-à-dire entre votre ordinateur et le serveur que vous voulez contacter, de manière à ce que les nœuds de sortie soient aveugles sur le trafic qui passe chez eux, qui passe sur les nœuds d'entrée, qui passe sur les nœuds de sortie. En chiffrant de bout en bout, tout ce qu'on voit en se mettant sur un nœud de sortie ou un nœud d'entrée, c'est du trafic chiffré qui est absolument illisible, sauf à gros renfort de moyens.
Eh bien, ça tombe bien, puisqu'on va parler justement du chiffrement avec Fou, qui a le temps d'aller se chercher un sucre. Non, on va passer un morceau, t'inquiète, on est tranquille, on est à la cool. On est sur Radio FMR en direct du THSF. Et Eugène Lau est allé chercher sur son peer-to-peer chiffré quelque chose en termes de musique.
Fantasma.
Bravo. Et il n'y arrive pas, évidemment. Merci Solarus. Et peut-être une prochaine crypto partie, peut-être en juin. On verra, on n'en sait rien pour l'instant.
On va se faire ça.
Il arrive juste à temps. Fou qu'on avait cru qu'on avait perdu. Donc on vous explique. Et ça tombe bien finalement que Solarus, on l'a avancé pour parler donc de Thor, puisque justement, donc on va présenter. C'est vrai que moi je savais pas comment dire si c'était faux zéro, un faux zéro. En fait, c'est fou.
Oui,
c'est ça.
Oui, à la base c'est un pseudo. À la base c'est un pseudo, un nickname. Donc les gens ils prononcent pas. C'est pas fait pour être prononcé. Et puis du coup, ouais, ça se dit fou. Voilà.
Ouais, on est sur Internet après tout.
Ouais, voilà.
Mais on est continuellement. Donc tu es l'un des, si je me trompe, cofondateurs de Télécomics.
Erreur.
Je me trompe.
C'est pas
je
grave.
Me trompe. Ouais.
Non, oui, les fondateurs de Télécomics sont suédois. C'est Christopher Kullenberg et Jonathan Wolk. Et puis après, d'autres personnalités aussi un petit peu comme qui ont participé. Comme Peter Sunday, alias Broken, Brokep, qui est fondateur de Pirate Bay. Donc voilà, historiquement, c'est un collectif suédois de gens qui font des choses et qui avait été fondé principalement pour contrer des lois, notamment, alors j'ai plus trop, le télécom paquetette et des choses comme ça qui étaient assez politiques. Et après, qui se sont orientés vers le réseau parce qu'il y avait quand même pas mal de gens de l'Intertube, ce qui était là-dedans, et puis qui aimait jouer avec ça.
Et ton activité actuelle est surtout proche de Reporters sans frontières, si je ne me trompe, et si je ne m'abuse, puisque tu es venu en parler hier, ici, au THSF.
Oui, tout à fait. Depuis 3-4 ans, je file des petits coups de main suite à mon implication au sein du mouvement Télécomics. On a été approchés par quelques ONG, dont RSF, ainsi que la FIDH, qui est la Fédération internationale des droits de l'homme, qui avait évidemment des besoins en informatique. Au-delà de la protection des données, etc., il y avait aussi un besoin de connaissances. Alors pour certains, ils connaissaient déjà très très bien le monde du logiciel libre, qu'ils avaient appliqué en interne, pour d'autres beaucoup moins. Et alors notamment RSF avait besoin vraiment de conseils, etc., pour les journalistes, parce qu'ils lançaient des programmes, justement, de formation. Et évidemment, il y avait cette formation du côté numérique, données privées et les télécommunications.
Alors, actuellement, Internet, tout le monde s'en sert des fois sans même s'en rendre compte.
Oui.
Est-ce que cela devient l'outil rêvé pour une dictature ?
Alors,
ou est-ce qu'au contraire, Internet permet de délivrer plus vite, d'une manière cachée, l'information auprès des personnes qui sont dans des pays où l'information est contrôlée ?
Alors, je vais revenir quand même un petit peu à la base. La vision de Télécomics pour Internet qui m'a... Enfin, à la base, j'ai rejoint vraiment Télécomics pour une chose, c'était vraiment la vision d'Internet, c'est-à-dire que faire transiter ce qu'on appelait après le concept de data love. En fait, c'est vraiment faire transiter des paquets, des données, sans discrimination d'un point A à un point B, sans aucune altération et discrimination. Voilà, ça c'est Internet. Peu importe le contenu qui y transite, que ce soit du son, la vidéo, enfin voilà, c'est vraiment ça à la base. Et ça c'est Internet. Alors, ensuite, on fait passer dans ces paquets-là des messages libertaires, des messages de haine, des messages de répression. Et ensuite, on peut bloquer des paquets. Voilà, donc ça on appelle ça de la censure, on appelle ça empêcher la liberté d'expression. En fait, cet outil, l'outil Internet peut être utilisé pour faire le bien ou pour faire le mal. Voilà. Donc c'est pas forcément un outil pour créer ou faire une dictature du tout. Mais ça peut le devenir, effectivement.
Effectivement.
Entre de mauvaises mains.
Alors, quand on est dans un pays qui est devenu une dictature, au hasard, un pays où cela devient très dangereux d'être journaliste, et je crois savoir que malheureusement la France inaugure le classement des pays à risque selon RSF.
Ah oui.
Quelles sont les précautions élémentaires à partir de là qu'il faut prendre pour se protéger, et surtout pour protéger ses proches ?
Alors, les précautions à prendre. Alors, jusqu'à présent, moi au sein de RSF, je faisais quand même beaucoup de missions auprès donc, d'activistes ou de journalistes, etc., pour. Leur apprendre ou du moins leur donner les clés ou une caisse à outils pour qu'ils puissent effectivement faire sortir des informations de leur pays sans que le gouvernement ou les sociétés privées puissent intercepter ces données pour X raisons derrière, que ce soit pour du fichage, que ce soit pour derrière des représailles. Donc voilà, jusqu'à présent c'était vraiment, je faisais beaucoup de missions au Moyen-Orient, etc. Et maintenant il va falloir le faire en France. Donc ça dénote vraiment un recul, clairement. Le côté positif, c'est que enfin, les gens vont peut-être vraiment s'y intéresser, y compris les journalistes. C'est pas parce que je suis chez Reporters sans frontières que je fais des cadeaux non plus. Hein. Il y a vraiment en France un souci de ce côté-là. Les journalistes ne se sont jamais réellement intéressés, sauf quand ils ont été ciblés.
Et là, en ce moment, ils le sentent. Ils sentent le vent, voilà. Le vent tourner. Hein. Depuis deux mois, je peux te dire, il y a beaucoup de médias locaux à Toulouse déjà qui commencent à se dire il faut commencer à se protéger.
Voilà. Donc, c'est malheureusement le côté positif de la chose. Et ensuite, après, voilà, vraiment le boulot que l'on fait pendant les formations concrètement, c'est d'écouter d'abord les journalistes, de comprendre comment ils travaillent, parce que dans chaque pays, c'est une méthodologie complètement différente. Ils utilisent des outils différents, ils ont une approche différente d'Internet et de son utilisation. Donc en fait, on essaye au maximum de s'adapter et de proposer donc des outils qu'ils vont devoir utiliser. Et donc vraiment, on essaie de choisir les choses les plus faciles. Je le répète souvent, les journalistes, ce ne sont pas des administrateurs système, ce ne sont pas des administrateurs réseau, ce sont des gens lambda qui utilisent l'ordinateur. Voilà, donc il est hors de question de faire ouvrir un terminal à un journaliste pour lui faire taper des lignes de code. Ça, faut oublier. Donc voilà, c'est toujours essayer de s'adapter. On a eu quelques critiques vis-à-vis de ça, mais malheureusement, c'est les retours de terrain qu'on a. Et on sait que CryptoCat, ça marche. Voilà, c'est clic-clic, ils peuvent chiffrer, soit faire des petits salons de chat chiffrés entre eux. Ils utilisent Facebook, donc CryptoCat intègre le chiffrement de chat Facebook. C'est vrai, des outils comme ça. Aujourd'hui, le plus gros problème qu'on a, c'est, d'ailleurs, il n'y a pas que nous qui le rencontrons, c'est pour le chiffrement des mails. Aujourd'hui, c'est une usine à gaz.
C'est relativement compliqué.
Voilà.
Il faudrait plier l'une des personnes qui est derrière là. Ils s'en occupent pour Mozilla justement.
Et voilà, donc le problème c'est qu'aujourd'hui pour chiffrer ces mails, c'est quand même, ça reste très compliqué. On peut pas en une journée apprendre à des journalistes à chiffrer leurs mails. Ça ne fonctionne juste pas. Il faut au moins des sessions de 2 à 3 jours et refaire, comme on dit, une piqûre de rappel. Ça veut dire repasser 6 mois après pour dire voilà, est-ce que vous l'utilisez, est-ce que ça fonctionne tout ça. Ensuite, il y a des projets assez sympathiques qu'on suit. Comme par exemple Mailvelope, qui est un truc clic-clic pour chiffrer ses mails, mais pour l'instant on ne le conseille pas en formation. On attend vraiment des retours, des audits, etc. pour pouvoir conseiller des outils comme ça aux journalistes.
Alors, j'ai un téléphone avec un robot en guise de logo. J'ai deux outils que j'utilise pour chiffrer mes communications, TextSecure et Redphone. On va vers un bon pas au niveau de la facilité d'usage, mais le problème est là, c'est qu'en informatique, il y a un principe qui est intangible et qu'on ne retrouve pas qu'en informatique, c'est si c'est sécurisé, malheureusement c'est compliqué. Si c'est pas compliqué, ça veut dire que c'est sûrement pas sécurisé.
Oui, alors là, oui, effectivement. Alors ensuite, il y a un juste milieu à trouver. TextSecure, je l'ai utilisé pendant 2-3 ans. Ensuite, il y a eu le problème de... qu'ils utilisent aussi des piles, enfin du push vers des serveurs Google, etc. Mais bon, ça reste quand même un outil très très bien. Il y a SMS Secure, je crois, qui est très très bien. Redphone, je l'ai utilisé, mais ça,
on a eu des... ça marche plus.
Alors ça fonctionne, mais
il y a plus personne qui s'en sert, j'ai l'impression.
Tout à fait. Et j'ai eu une petite expérience dernièrement. On a fait un Redphone il y a 15 jours. Bon, ça a fonctionné, mais c'était un peu vraiment dégueulasse au niveau de la voix.
Donc TextSecure, en fait, c'est pour chiffrer ses SMS.
Oui, Redphone, c'est la voix.
Ça prend la place, en fait. Quand on compose un numéro de téléphone, quelqu'un qui est sur Redphone, il vous dit, est-ce que vous voulez chiffrer cette communication?
Voilà.
Et en fait, ça ne passe plus par le canal de voix, ça passe par les données. Donc il faut avoir un forfait Internet correct.
Tout à fait. Et en plus, une petite anecdote qui nous est arrivée, c'est-à-dire que le contact m'a appelé et je n'ai pas répondu parce que j'étais occupé. Et 4 heures après, mon téléphone s'est mis à sonner et c'était Redphone, en fait, qui était en train de s'activer comme si le coup de téléphone est revenu 4 heures après. Alors, voilà, c'est bizarre comme comportement. Et alors, j'imagine la personne qui est ennuyée pour X raisons dans un pays ou n'importe quoi, et qui est par exemple en train de se... qui est au commissariat ou n'importe quoi, et puis son téléphone se met à sonner, et puis l'autorité regarde le téléphone et voit Redphone qui s'allume. Voilà, pas cool du tout. Voilà, il y a des pays où utiliser des outils comme Tor...
C'est un coup à perdre des dents ou des doigts.
Voire pire, voilà. Ouais. Mais non, enfin, il y a des pays où utiliser des outils comme Redphone, comme Tor, etc., c'est avoir des soucis. concrètement, c'est ça. Donc voilà, il faut vraiment utiliser. Et puis ensuite, comme je le répète souvent, utiliser des outils de chiffrement, il faut vraiment les utiliser à bon escient. Réellement, voilà. Il y a des moments où on doit chiffrer et d'autres où ça n'est pas la peine. Il ne faut pas oublier que chiffrer des données, qu'elles soient voix, de la voix, de la donnée, etc., ça produit du bruit sur le réseau. Voilà, du bruit différent sur le réseau. Et forcément, ça émet des petits warnings.
C'est les fameux signaux faibles.
Voilà.
Comment en fait la communauté de ceux qui font donc les logiciels peuvent-ils encore améliorer les outils?
Ah, alors c'est
est-ce
facile.
Que c'est une question d'éducation? Est-ce que c'est une question de le rendre joli, kawaii, de faire une bonne documentation, de l'internationaliser? C'est quoi?
Ça, c'est un ensemble. En premier, c'est que l'outil soit utilisé. Plus il est utilisé, plus il y a des retours, ce qu'on appelle du feedback, plus il y a des retours d'expérience pour améliorer les choses. Notamment, il y a vraiment des projets qui sortent du lot, comme Tails, comme le projet Tor aussi, qui ont besoin beaucoup d'utilisation, parce que plus les gens l'utilisent, plus ça fait du trafic chiffré, et plus c'est compliqué en face pour faire d'éventuelles attaques ou d'éventuelles analyses sur les lieux de sortie, les entrées, etc. Donc c'est vraiment des outils à utiliser en masse.
On voit aussi quand même que les outils traditionnels, les VPN ou même Tor, ont du mal à passer dans certains pays, notamment en Chine. Ça devient de plus en plus compliqué à s'en servir. Donc à partir de là, est-ce qu'il y a une nouvelle génération d'outils à mettre en place ou au moins à créer?
Alors, nouvelle génération d'outils, oui, évidemment, il y en aura. Enfin, ça va venir. Ensuite, concrètement, pour sortir par exemple d'un pays comme la Chine ou comme d'autres, effectivement, de temps en temps, ils bloquent les VPN. Il n'y a pas beaucoup de solutions pour le VPN. Pour Tor, il y a quand même les fameux bridges Tor qu'on peut mettre en place. Ça veut dire que ça va être des bridges dont l'IP n'est pas connue au départ. Donc ça peut laisser un laps de temps pour pouvoir faire sortir des informations. Ensuite, il y a tout plein de choses autour de Tor qui tournent. Après, c'est quand même assez compliqué à mettre en place, effectivement. Comme par exemple faire croire à un firewall que c'est du Skype vidéo et en fait c'est un tunnel Tor à l'intérieur, ça existe. C'est pas à la portée de tout le monde, on est bien d'accord. Ensuite, par exemple, il y avait une petite anecdote que il y a 2 ans, la Chine avait mis en route leur firewall, c'est-à-dire qu'ils avaient bloqué tous les VPN, sauf quelques-uns. Par exemple, Astril VPN, c'était le seul qui fonctionnait pour sortir et rentrer, enfin pour sortir de Chine. Donc des fois, il y a quand même des questions aussi à se poser quand les gens ils prennent des VPN payants, de regarder quand même un petit peu le passif de ces VPN-là. Parce que c'est quand même curieux que la Chine bloque tous les VPN, donc les Suédois, Luxembourg, etc., sauf Astril VPN qui fonctionnait parfaitement.
Ben, la question existe aussi en France, ça peut être un oubli, comme on a vu que certains sites ont été censurés, sauf quand on était chez un opérateur comme Numericable. La FDN. Ça,
tout à fait.
Donc c'est peut-être un oubli.
Je crois pas.
Ça reste la question ça reste les règles que j'ai données au début. C'est est-ce que des fois on n'est pas un peu trop parano?
Bien sûr, il y a la bonne parano. Ce que j'appelle la bonne parano, c'est effectivement de faire juste attention sans rentrer dans la paranoïa excessive qui mène souvent à des erreurs. De toute façon, ça c'est voilà. Mais bon, non, je ne pense pas être parano. J'espère que je le suis un petit peu. On me l'a dit que je n'étais pas assez, quelquefois. Mais non, ce n'est pas de la parano. Enfin, je ne peux pas croire 5 minutes que le fameux firewall chinois ait oublié Astrid VPN.
D'accord. Non. Dans d'autres pays, notamment, donc, il y a eu la révolution du printemps arabe en 2012. Oula, wow. Ouais. En 2012, donc, ça a été... tel qu'on l'a vu en Europe, on a dit c'est le grand triomphe des réseaux sociaux, etc. En fait, c'était relativement très peu utilisé, en soi. Mais est-ce que justement, ça n'a pas incité les journalistes et indirectement aussi les autorités à se poser, à s'y intéresser et donc à créer des risques?
Suite effectivement au printemps arabe ou tous les mouvements comme ça dans les pays arabes, effectivement, on l'a bien vu que, par exemple, en Égypte, le gouvernement a été pris de court. Et dans la panique, ils ont tout coupé. Voilà, donc c'est clairement une réaction de panique. Donc c'est vrai que c'est ce qui prouve qu'avant, ils ne s'en occupaient pas tant que ça. Ils le surveillaient, ça c'est certain, mais ils n'y voyaient pas non plus un danger d'eux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, il y a tout doucement, on le voit alors en France avec les lois qui commencent à venir. Là, il y en a une nouvelle, la LCN qui va être étendue. Il y a des petits trucs assez drôles dedans, notamment sur les, qui concernent directement les plateformes, tous les réseaux sociaux. Donc ça, je dis, voilà, j'ai pas envie de, parce que je l'ai pas en tête exactement, mais je laisse les gens aller découvrir et puis rigoler parce que.
À aller voir sur la quadrature du net.
Oui. Voilà, oui, tout à fait. Ça, je pense qu'ils vont le faire. Ça a été rajouté il y a 3-4 jours par le Sénat. Donc ça va être très très vite pris en main effectivement par des collectifs comme la Quadrature qui font un travail assez extraordinaire là-dessus. Donc oui, effectivement, il va y avoir des... Tout doucement, ils vont commencer à agresser les plateformes de réseaux sociaux, etc. Parce que oui, pour eux, c'est un, alors un danger, je ne sais pas, pas en France encore, c'est pas du tout le même contexte. Ensuite, dans les pays comme la Syrie ou comme alors même en Tunisie, il commence à y avoir, là il va y avoir une loi contre le terrorisme. C'est évident qu'ils vont réagresser encore Internet, ils vont encore refaire des choses. Voilà, je pense que la société civile tunisienne, j'espère, va être super en alerte là-dessus.
On a vu quelque chose lors des contestations qui ont eu lieu l'an dernier à Hong Kong. On a vu les manifestants, qui étaient très nombreux dans la rue, utiliser ce qu'on appelle un réseau en mèche, FireChat, pour communiquer entre eux, ce qui fait une espèce de réseau parallèle pour se connecter à un endroit. FireChat n'est pas exempt de défauts, très loin de là. Ouais. Mais est-ce qu'une partie, justement, ça peut être un moyen instantané, je veux dire, d'essayer d'échapper, ou alors, est-ce que c'est un immense danger en soi?
Non, ce qui est super intéressant, c'est que des étudiants ou voilà, des manifestants, de façon instinctive et vraiment comme ça, se sont mis à utiliser ce genre d'outils. Je dis bien ce genre d'outils parce qu'à la base, c'est quand même tout ce qui est mèche, tout ça, machin, c'est quand même adressé à une certaine communauté. On peut les appeler hackers, geeks, quoi, tout ça. Mais par contre, c'est super intéressant que ce genre de mouvement, tout de suite, commence à s'emparer de ce genre de techno. Ensuite, ce genre d'outils, vraiment principalement, n'est pas du tout adapté à ce genre de manifestation. Vraiment, vraiment pas. Quand il y a de la répression, etc. Non, cet outil, il est superbe, bien. Il est vraiment bien fait. Par contre, tout transite en clair. Voilà. Non, c'est vraiment le seul point noir. Donc, c'est vraiment ce genre d'outils, c'est super intéressant à utiliser dans des organisations de manifestation où c'est pacifique, etc., machin, mais quand il commence à y avoir du danger, quand il commence à y avoir potentiellement des meneurs qui peuvent être tout de suite identifiés et ensuite emprisonnés, non, il faut tout de suite essayer de switcher d'outils. On l'avait alerté sur le moment, parce qu'on avait effectivement identifié cet outil, quand on a vu qu'il était utilisé, on avait regardé un petit peu, et en moins de 2 heures, on avait pris la main et on regardait tout le trafic en clair sur le serveur. Voilà, vraiment, ils sont encore disponibles sur Twitter, on avait fait quelques articles dessus. Ensuite, quand on a fait ça, c'était pas du tout pour descendre cet outil-là, ni les développeurs. C'était juste pour dire, attention, ce genre d'outil n'est pas du tout adapté à ce genre de situation.
Voilà. D'accord. C'est quand même assez étonnant. De tout ce que tu racontes depuis tout à l'heure, on a l'impression que la mission de Reporters sans frontières, elle est allée au-delà d'alerter sur les journalistes emprisonnés et sur la répression vis-à-vis de l'information. À vraiment informer le grand public et d'auditer des logiciels qui sont là pour protéger leur anonymat. Oui, dans un grand changement de paradigme, quelque part, ou c'est un glissement, ou c'est un effet de bord
Alors en fait, c'est peut-être un effet de bord, je ne sais pas. En fait, Reporters sans frontières, effectivement, à la base, le mandat de Reporters sans frontières, Grégoire en a parlé hier, c'est vraiment faire un travail sur la défense du journalisme. Et aujourd'hui, ils ont étendu ça d'ailleurs aux blogueurs ou aux nets citoyens, où ils remettent des prix régulièrement. Et ensuite, quand le bourreau de Nouveaux Médias qui était tenu, qui a été créé, où à l'époque il y avait Lucie Morion et Grégoire Pouget, a été créé, ils ont donc commencé à dire voilà, Internet, etc. Et quand on parle Internet, quand on parle de protéger les données pour des journalistes, c'est évident qu'il va commencer à falloir parler d'outils. Et forcément, quand on parle d'outils derrière, il faut faire de la veille, il faut regarder un petit peu la sécu, tout ça. Or, c'est pas du tout dans les compétences de Reporters sans frontières. Voilà. Et là où l'intelligence, ils sont intelligents, c'est Reporters sans frontières, mais vraiment la curiosité, c'est qu'ils ont été voir le fameux mode des GIAC sur Paris, les journalistes hackers, etc. Ça vient quand même de là, à la base. On se dit, voilà, il y a des gens qui savent faire. Ils sont un peu bizarres quand même. On a un peu l'image d'eux, c'est des hackers vivant dans les caves, tout ça, mais on va quand même aller les voir. Et du coup, voilà, il y a des ponts qui se font. Et aujourd'hui, Reporters sans frontières, je travaille avec eux, mais il n'y a pas que moi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent dans la sécu, qui ne veulent pas forcément être connus, parce que voilà, mais ils filent un coup de main à Reporters sans frontières. ils n'hésitent pas du tout. Voilà, on a eu.
C'est une association. Il n'y a pas que les moyens financiers qui sont importants dans une association.
Les moyens humains. Concrètement, des fois, Reporters sans frontières peut tomber sur des cas, par exemple, imaginons un cas d'un laptop qui a été infecté par Gamma ou FinFisher, tout ça. RSF n'est pas du tout capable de prendre le disque dur, de faire du forensic, du reverse engineering, tout ça, pour prouver que c'est une attaque ciblée. Reporters sans frontières ne sait pas faire ça, ne peut pas le faire.
Donc on ne peut pas savoir si c'est en fait un virus qui va juste mettre, juste mettre des pubs à votre insu, etc. Ou quelque chose qui est vraiment là pour vous espionner d'une manière précise.
Tout à fait. Et donc, par mon biais à moi ou d'autres personnes, on fait des relais. Et puis je connais un gars qui bosse dans la sécu. Je dis, écoute, voilà, il y a ça. Et le mec, soit il est sensible ou pas à Reporters sans frontières, il fait, mais ouais, écoute, j'adore Reporters sans frontières, j'adore ce qu'ils font. Pour moi, c'est un défi. Viens, on va voir ça, on va regarder ça ensemble. Et ça se fait au coin d'un bureau, en 3-4 heures, on regarde ça ensemble. Et ça se passe comme ça. Voilà, c'est vraiment un échange.
Il y a un an et demi, on m'avait posé une question. C'était qu'est-ce qu'apporterait le data journalisme dans une rédaction? Et j'étais là, je me suis dit, ah oui, super, les graphismes en 3D, les SVG, l'open data et tout ça. Et j'ai eu un arrêt. Et une semaine après, je me suis dit non. Si vous devez prendre un hacker, en fait, c'est un vrai, un pur, un tatoué, quelqu'un qui est parano, quelqu'un qui va réfléchir sérieusement sur la manière dont vous allez utiliser l'ordinateur et qui va vous faire réfléchir à deux fois quand vous cliquez sur un lien. Finalement, c'est ce que l'on devrait dire à toutes les entreprises aussi.
Alors, pour les entreprises, c'est quand même c'est un petit peu différent. Parce que quand même, ils ont pas forcément les mêmes problématiques que le journalisme. Ils ont, alors je sais pas, quel exemple on pourrait prendre d'entreprise. Mais déjà, par exemple, concrètement, Reporters sans frontières, évidemment, ils ne vont pas non plus. On rentre pas à Reporters sans frontières. Coucou, je suis un hacker. Montrez-moi votre laptop, je vais voir ce qu'il y a dedans. Dedans, il peut y avoir des données confidentielles à RSF, etc. Donc, il y a aussi avant tout une relation de confiance. Ensuite, l'image du hacker complètement parano au fond d'un garage, ça n'existe, ça existe. C'est très très peu, mais non, c'est quand même un cliché.
Avec sa capuche.
C'est quand même un cliché. Après, il y en a qui sont, bien vénères. Hein, je suis bien d'accord.
Ouais.
Et ensuite, il y a aussi quand même l'image, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand même, on travaille avec des ONG. Hein, on est bien d'accord, qui peuvent être vraiment ouverts d'esprit, etc. Mais c'est quand même, il ne faut pas oublier, c'est quand même deux mondes qui ne se connaissent pas à la base, qui peuvent avoir des préjugés. Moi, j'avais des préjugés sur ce monde-là, eux aussi en avaient. Donc il y a quand même une période où on se regarde, etc., et qu'il faut arriver à se comprendre et à être tolérant. Concrètement, il y a des Windows. Hein. Moi, je n'utilise plus Microsoft depuis un paquet d'années. Et quand je bosse, que je suis d'un coup de main à une ONG, je tombe sur des postes Windows. Je vais pas faire mon intégriste, quoi. Je vais filer un coup de main, même si c'est du Windows. Donc voilà, il y a vraiment une tolérance à avoir. Et c'est très bien, ça met un peu d'eau dans son vin. Mais ça me fera pas réutiliser Microsoft Windows. Et quand je peux cracher dessus, je le fais régulièrement. Mais par contre, c'est vrai qu'à ce niveau-là, je vais par exemple au Mali, il y a des laptops sous Microsoft Windows. D'une dame qui fait par exemple ce qu'on appelle qui a un focus, elle est dans un petit village et elle fait du reporting sur des exactions. Je vais pas me pointer, prendre son laptop, l'installer dans Linux et puis me barrer. Non, ça c'est pas. Non, dans la vraie vie, ça se passe pas du tout comme ça.
C'est vrai que j'ai la chance de discuter beaucoup avec des gens qui bossent dans le milieu de la presse. Et notamment, il y a un Français qui est expatrié, qui maintenant est au Financial Times, mais à l'époque il était au Guardian, Kelig Delumou-Pringent. Et il m'avait dit que l'une des questions, au bout d'un moment au Guardian, c'était juste après justement les disques durs qui ont été confisqués et détruits par les services secrets anglais, puisque ces disques durs avaient contenu les données fournies par Edward Snowden, il y a eu une conférence de rédaction où en fait la question était venue par le service informatique, il disait il faudrait que vous appreniez à tout chiffrer. Et un des responsables du service étranger a levé la main et a dit c'est totalement exclu vis-à-vis de nos correspondants dans les pays étrangers. Alors à partir de là, comment fait-on?
Alors je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a répondu ça, je ne connais pas exactement le contexte. Aujourd'hui, tout chiffré, c'est possible. Hein. Les outils qui le font très, très bien, il y a TrueCrypt, etc. Le plus important, c'est pas trop de... Enfin si, c'est important de chiffrer les données. Aujourd'hui, il y a quand même un souci. c'est qu'il faut chiffrer les données et il faut surtout les décentraliser. Moi, je veux bien chiffrer les disques durs. Concrètement, quand j'ai été faire une petite mission en Égypte, où on a rencontré des ONG qui sont soumis à des pressions du gouvernement, qui se prennent des raids par la police dans leurs locaux, s'ils avaient eu des disques durs chiffrés, ils auraient été super contents parce que les disques durs, ils auraient été saisis. Donc je vois pas l'intérêt. Donc vraiment,
oui,
on
chiffre
ces données.
Vous cachez aussi quelque chose, vous êtes suspect.
Voilà, mais il faut aussi que les gens ils pensent aussi à cacher leurs données chiffrées, à les décentraliser.
Donc là, on reparle du cryptage, justement.
Voilà, et donc oui, tout chiffrer, bah, évidemment qu'une ONG ou des journalistes, c'est quand même mieux s'ils ont un petit volume chiffré ou s'ils ont une clé USB chiffrée, etc. Je ne comprends pas pourquoi cette personne a dit que c'était totalement exclu de tout chiffrer. Ça, par contre, pour un journaliste, je trouve ça assez...
Ouais, mais on était quasiment en direct en plus. Bah voilà, on est une radio alternative, on est sur FMR, donc des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et là, c'est le tableau de plomb.
C'est une radio quantique.
Ouais, c'est la radio de plomb. non, c'est les plombs de Mixar Miris qui nous ont fait faux bond. Donc je suis. On est, désolé, hein, fou depuis tout à l'heure. Ça a été un petit peu compliqué. Donc, on reprend sur la. Pour la fin de cette interview, justement, quitte à avoir un vrai professionnel de ce que c'est qu'expliquer la sécurité et tout. Donc, quand on est dans un pays où Internet est teinté, où Internet est géré où on met une main rouge sur certains sites, etc., et que donc probablement des logiciels qu'on pense télécharger et qui sont corrects ne sont pas la bonne version. Et donc, je prenais comme exemple Tails ou Tor.
Oui. Comment on fait,
on fait dans ce cas-là?
Alors, c'est toujours très compliqué. Ensuite, si la personne fait la démarche d'aller télécharger ce genre d'outils, c'est que déjà, elle a soit été informée ou elle fait quand même un pas intéressant d'une volonté de pouvoir chiffrer ses communications. Donc, avec un peu de chance, elle a eu les bonnes informations. Ensuite, c'est toujours compliqué, effectivement, concrètement, quand on essaie d'établir un canal de communication à peu près sécurisé avec une personne dans un pays assez loin. Il faut évidemment, comme on dit, parler la même langue ou en informatique le même protocole. Et concrètement, c'est essayer de lui faire passer des bonnes infos. Donc un petit peu comme on l'avait fait avec Telecomix, quand on avait envoyé pas mal de PDF en Égypte ou en Turquie, etc., pour apprendre à utiliser les bons outils, filer les bonnes URL. Ensuite, on ne va pas apprendre à un activiste ou à un blogueur qui est un petit peu débutant à l'autre bout du monde à lui faire comprendre qu'est-ce que c'est que MD5, etc. C'est juste pas possible. Donc effectivement, il faut d'abord espérer que la personne ait eu les bonnes infos. Mais déjà, c'est toujours positif. C'est-à-dire que la personne, elle a fait la démarche d'aller chercher un outil pour. Donc ça veut dire que derrière, elle a déjà conscience d'eux. Et ça, déjà, c'est super. Ensuite, effectivement, on n'est pas à l'abri qu'ils aient téléchargé une version Tails ou une version Tor qui est backdoorée, mais ça reste quand même assez mineur, ce genre de choses. Moi, ce que je vois le plus souvent dans les pays Moyen-Orient, c'est plus des distributions Microsoft Windows qui sont volontairement, et là je pèse mes mots, volontairement données. C'est pas du marché pirate ou quoi que ce soit, c'est volontairement donné sur les trottoirs, etc. Et c'est des versions Windows, évidemment, qui sont trouées de partout. Ça, c'est vraiment la chose qu'on rencontre le plus souvent.
Pour terminer l'interview, donc, et après, Fou, je sais pas ce que tu as prévu d'autre ce week-end.
Là, après, on va jouer un petit peu avec je peux le dire, en fait. J'ai oublié que c'était à la radio, en fait. Non, on va un petit peu jouer avec du RTL-SDR et du HRF. Voilà, pour voir un petit peu ce qui traîne dans les airs et tout ça. Comme ça, à la mode, les MC Catchers et tout ça, on va regarder un peu.
Et donc, là-dessus, si on te retrouve en général, dans quel type d'événement?
Ah ouais, alors totalement random. Alors évidemment, on me retrouvera tant que la HSF existera, et que je peux venir, ça c'est évident, c'est un des festivals qui pour moi reste le premier festival en France de tout, où il y a de l'art, il y a de la musique, il y a du hack, il y a des potes, etc. Donc pour moi, ça reste vraiment le festival en France où il faut venir. Ensuite, on peut me croiser chez les copains de Labo Média à Orléans, de temps en temps à Paris, quand j'ai le temps d'aller voir les gens du Loop, peut-être cette année à Passage en Seine. Ensuite, je me promène un peu partout. Mais bon, je quand même, comme je travaille quand même pas mal, bon, voilà.
Merci beaucoup.
Sinon, sur les IRC, etc.
Merci voilà. beaucoup, Fou, de ta disponibilité.
Merci de l'invitation.
Et désolé, hein, quand même. Mais on va parler justement de quelque chose, c'est comment rendre un PC amnésique. On va parler de Thor avec Bytepunk.
Super.
Puisque en fait, on fait une émission, mais là, non, c'est l'autre micro.
Ah, c'est l'autre micro. Allez, je te passe.
Celui-ci ne fonctionne pas.
Voilà. Payant mon temps.
Ouais, là, c'est super. Bytepunk, bonjour.
Bonjour.
Tu avais fait une très belle démonstration lors de la crypto party qu'on avait fait au printemps dernier. C'était comment rendre un PC amnésique.
Oui, et entre autres. Amnésique, entre autres.
Entre autres. Et on le voit utilisé par Edward Snowden dans le documentaire Citizen 4. Excuse-moi, j'ai un paquet qui passait mal dans la gorge. Et en fait, ça a une utilité, justement. C'est utilisé en soit comme par hasard dans certains milieux militants, anarchistes, que l'on veut, terroristes, ou est-ce que c'est utilisé vraiment pour des raisons, je vais dire, importantes pour nous, c'est-à-dire pour le journalisme, pour la sécurité quand on est médecin ou quand on est avocat. Donc
ça,
je te laisse présenter.
C'est une utilité pour tout le monde en fait. C'est pas un truc spécialisé pour spécialement des professions sensibles ou.
Ou répréhensible.
Ou répréhensible en fait. N'importe qui voudrait protéger ses données et sa vie privée, ce serait une bonne idée d'utiliser un système comme Tails, puisqu'il laisse pas de traces sur la machine sur laquelle il est utilisé, et que toutes les connexions passent par Tor, et donc on ne peut pas en identifier l'origine.
Alors, Tails, qu'est-ce que c'est à la base ?
Tails, c'est un système d'exploitation live. C'est-à-dire qu'il se lance depuis une clé USB ou un CD-ROM et il ne touche pas au disque dur de l'ordinateur et qui donc ne laisse aucune trace dans la machine. Et par défaut, toutes les connexions au réseau passent par Tor. Tor étant un système qui permet de défaire le lien qu'il y a entre l'identité d'un utilisateur d'Internet et son adresse IP.
On en a parlé justement tout à l'heure avec Solarus. Donc, en soit, c'est quelque chose où il n'y a plus rien à installer.
Non.
Et où la seule chose à faire, c'est brancher et allumer.
Voilà,
c'est plug and play.
On met sa clé USB, on démarre dessus et on a un système d'exploitation qui oubliera tout ce qui s'est passé sur l'ordinateur.
D'accord. En fait, comment on télécharge et comment on l'installe ? Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à mettre en place ?
La solution la plus simple pour obtenir une clé Tails, c'est de connaître quelqu'un qui en a une pour en faire un clone. Sinon, c'est possible de le télécharger sur tails.boom.org. Mais si on veut le faire de façon sécurisée, il faut vérifier les signatures des images ISO. Et c'est à la portée de quelqu'un qui fait un tout petit peu d'informatique.
Oui, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est demander une signature d'un logiciel, c'est pas pratique.
Non.
En soit,
on n'est pas obligé de le faire, mais c'est hasardeux de ne pas le faire.
En soit, Tails, c'est un Linux. Donc si on a besoin en fait, de surfer sur Internet, consulter son mail ou d'écrire un document dans une suite Office, tout est déjà présent en fait dedans.
Oui, oui, tous les logiciels dont on pourrait avoir besoin au quotidien sont présents dans. On a de quoi faire on a de quoi éditer des images, de quoi éditer du son, de quoi faire des brochures, de quoi envoyer des mails, de quoi tous les outils qu'on a besoin pour Internet. Voilà.
Et en soi, comme c'est Linux, il y en a plein qui vont dire mais ça va pas marcher avec tous les matériels et tout ça. Est-ce que toi tu l'as essayé sur plein de bécanes et tu dis non, ça va, ça fonctionne partout.
Ça fonctionne presque partout et c'est un peu plus pénible quand les constructeurs de matériel ont prévu qu'on puisse pas démarrer autre chose que leur système d'exploitation. Mais on y arrive quand même.
D'accord. En soit, oui, vas-y, pardon.
Et c'est quoi, c'est de la Debian en fait ?
Tails ?
Ouais.
C'est basé sur Debian.
C'est basé sur Debian, oui. Les PC et la radio tournent sur Debian.
Donc on peut installer en plus, s'il le faut, sur la clé, d'autres logiciels qui seraient disponibles sur le système
Debian,
de distribution.
Oui, complètement.
En soit, Tails on démarre.
Oui.
Mais quand on travaille sur les documents,
oui.
Il faut bien qu'on les stocke quelque part. Qu'est-ce qui se passe ?
Idéalement, non. Idéalement, si ces documents sont vraiment sensibles, c'est mieux de ne pas les stocker de nulle part. Ou en tout cas, pas sur soi.
D'accord. Donc comment fait-on ? Je t'ai tiré vers du nez.
Soit on les publie, soit on les transmet à des personnes. Soit on les met quelque part qui ne soient pas connectés avec notre identité. Et si vraiment on a besoin de garder une copie en local avec soi, Tails permet de créer une partition chiffrée sur la clé, sur laquelle on peut enregistrer des documents. Et donc quelqu'un qui mettrait la main sur la clé aurait besoin de la clé de déchiffrement pour aller voir les documents qui sont dans la partition chiffrée.
Mmh. En soi, il y a eu une chose dans la démo qui est assez bluffante,
oui,
que tu as fait de Tails, c'est quand on retire la clé.
C'est ça, quand on enlève la clé de l'ordinateur, la machine s'éteint et efface la RAM. Donc en à peu près une 30 secondes, il n'y a aucune trace de ce qui s'est passé sur l'ordinateur, il suffit d'enlever la clé.
Donc si l'ordinateur il est que sous Windows,
oui,
même si c'est un Mac, on ne sait pas ce qui s'est passé dessus.
Non.
Absolument rien.
Non.
Donc après, ben, si on va dans un cybercafé et qu'on veut consulter ses courriers sensibles, etc.
Oui.
Finalement, la meilleure des sécurités, c'est peut-être de redémarrer l'ordinateur qu'on vous loue sous Tails.
Oui, mais je sais pas si le cybercafé te laissera le faire. Je sais pas.
Ça va parier.
Mais on n'est pas obligé d'aller dans un cybercafé, on peut faire ça à la maison.
Est-ce que, par contre, quand on utilise donc cette clé USB, c'est moins rapide, c'est plus lent, ça pose des soucis sur l'usage, voire même on est bloqué.
On a les limitations du réseau Tor, qui sont un petit peu moins rapides que le réseau Internet normal, puisque ça passe par beaucoup d'endroits avant d'arriver à destination. Et plus on recherche un niveau de sécurité important, et plus on est limité en termes d'usage. Mais c'est aussi l'utilisateur a pas mal de pouvoir sur ça.
D'accord.
Dans le dernier navigateur Tor, on a un slide, une barre dans laquelle on peut choisir son niveau de sécurité et qui est corrélé avec un niveau de usability, usage.
D'accord. Accessoirement, donc Tor derrière.
Oui.
C'est une association, c'est une fondation. Tails, pardon.
Tails.
C'est une fondation, il y a quelque chose derrière. Est-ce que c'est un projet?
C'est une communauté.
Donc on peut contribuer à ce logiciel
d'une certaine
manière.
Les sources sont disponibles et ouvertes. Et il y a un gestionnaire de bugs et tout ça.
D'accord. Toi-même?
Oui.
Tu as combien de clés de Tails sur toi?
Sur moi, tout de suite, j'en ai qu'une seule.
T'en as qu'une seule, ça suffit?
Pour moi, pour mon usage, largement.
D'accord.
Et pour faire des copies aux autres gens, ça suffit largement.
Ok. Est-ce que, justement, tu t'es dit, ça peut être l'occasion d'en parler, justement, à des gens qui vont dans les pays étrangers, ça pourrait être une sécurité pour eux?
Je vois pas le problème à aller dans des pays étrangers. Je pense que la situation est suffisamment merdique pour le faire déjà quand on habite en France.
D'accord.
Et on n'a pas besoin des lois pour le renseignement, on est déjà surveillé et la loi pour le renseignement ne fera que légaliser des choses qui sont déjà pratiquées aujourd'hui.
D'accord, ok.
C'est pas pire ailleurs en fait.
C'est pas pire ailleurs, donc.
Des fois ça se voit un peu plus, mais c'est tout.
Ok. En tout cas, Bikepunk, merci beaucoup. Tu es présent au sein du Tétalab Teta Neutral.
Oui.
On te voit souvent donc au sein de Mixer Miris et mercredi soir. Donc c'est le moment où se réunit en fait le Theta Lab à partir de 20h à peu près.
Oui, je suis plus souvent au repas hebdomadaire de Theta Neutral à la Pagnolade le mardi ou le jeudi.
Oula, tu fais de la pub là pour un resto. Ah, t'aurais pu donner une adresse pour aller voir.
J'ai plus l'adresse en tête.
Pour ce qu'il reste à faire dans le THSF, qu'est-ce que tu as envie d'aller voir, envie de faire et tout ça, si tu as un petit conseil sur la suite?
La chose la plus intéressante de mon point de vue, c'était la conférence de 13h qui parlait de YouNost et qui permet d'avoir ses données chez soi, avec ses services hébergés chez soi.
Donc ça veut dire renverser le cloud, en fait justement tous les outils du style webmail et tout ça, donc sur ses propres ordinateurs.
Ça prend le contre-pied mais ça renverse rien. Oui, mais c'est bien de prendre le contre-pied de tout centraliser. C'est faire de l'internet au lieu de faire du Minitel.
Voilà. Et en plus, c'est plutôt bien fait puisque ça s'installe en 2-3 clics. Et il faut dire, c'est plutôt facile à administrer justement pour n'importe qui.
C'est fait pour être accessible à des non-informaticiens, à des non-technophiles.
D'accord.
C'est assez efficace. Et donc, Theta Neutral collabore avec les gens de YouNost et de la fédération FDN sur ce projet-là. Il y a notamment des applications qui permettent d'utiliser Tor dans YouNost.
D'accord. Bikepunk, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Et donc, c'est ainsi qu'on se termine notre émission, malgré notre interruption. Sans le vouloir, mais oui, mais vous savez que le pouvoir corrompt, mais on a besoin d'électricité. Non, la balade ne marche qu'en anglais. Elle est nulle, elle est absolument nulle. Si vous venez, donc, c'est terminé pour l'émission de radio. Mais en tout cas, il y a encore des gens. Donc, il y a nos amis de Data Airmine qui présentent un jeu assez amusant en casque réalité virtuelle. Il y a d'autres choses à voir tout au long du THSF. Il y a de la lévitation assistée par ordinateur. Il y a aussi un jeu de Pong 1D qui a été montré l'an dernier. Il y a de la musique où tout le monde joue. Du Minitel avec un classique de la littérature. Présenté d'une manière graphique sur Minitel, plein de choses complètement démentielles et pas mal de concerts. Et donc pour cet après-midi, au sein des conférences, donc dans quelques minutes, un activiste espagnol, Lord Epsilon, qui vient présenter les réalités physiques et politiques derrière Internet, qui est extrêmement intéressant de ce côté-là. Jérémy Zimmermann, excusez-moi, qui est le cofondateur de la Quadrature du Net à propos de droit et liberté d'Internet. Et vous comprenez que la question est extrêmement sensible en ce moment en France là-dessus. D'autres performances qui sont présentées, notamment Same Player Shoot Again de Guillaume Bautista, c'est en ce moment. Et les concerts, là on entend juste dehors sur le quai Scratch Session. Il y aura Plum, Philo et Mick et CK Too Low du Rap and Scratch à partir de 20h. D'autres performances, il y a une suicide à l'homéopathie, pseudo-performance médicale de Lionel D. C'est même pas la peine d'appeler le centre anti-poison, je pense. Lone Tribe, c'est de Human Bread Curse à partir de 22h, donc en concert. 23h, Nerdistan, poésie arabe et électro-hip-hop. Et parmi les performances, à du Buto Noise à 1h30 avec 1K et Morgo Mix et Cheto One donc en mix à partir de 1h30. Et demain, encore plein de choses à voir, des ateliers avec notamment y a des ateliers d'apprentissage autour de la langue des signes. Si vous voulez apprendre à communiquer avec des sourds-muets, je tiens à signaler d'ailleurs qu'il y a deux personnes qui sont sourdes et muettes qui servent au bar. Bonne chance pour leur expliquer que non, c'est pas cette bière que je veux et tout. Si vous savez pas signer, ça doit être un petit peu compliqué, je pense. Il y a aussi du body bouddhisme, donc de la lévitation assistée par ordinateur. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est assez fun. Des démonstrations de vieilles machines avec démos rétro. Il y a un Apple II, du Commodore 64, toutes ces machines mythiques que les vieux cons comme moi, qui maintenant ont la crise de la quarantaine, c'est l'occasion ou jamais pour en parler. Un photomaton guidé par Raspberry Pi avec monté par Paula. L'Open Bee Lab de Pierre Gandré, Praderas. Donc c'est une ruche connectée qui permet en fait de décrypter les abeilles ou déchiffrer. Là je ne sais plus trop. Ah non, mais les abeilles elles dansent en 8, donc c'est du chiffre. Donc c'est du déchiffrage. Un cabinet de curiosité, il y a un peu de tout à voir, de la musique collaborative avec des instruments complètement frappadingues et plein d'autres choses à voir avec bien évidemment donc les équipes du Mixer Mirais et du Tetalab qu'on remercie énormément. Je remercie aussi beaucoup les équipes techniques de Radio FMR et Eugène Lau qui a assuré la réalisation. Je remercie bien évidemment tous ceux qui sont venus au pied levé pour organiser cette crypto-partie radiophonique. C'était un hack assez intéressant et je pense que ça valait le coup quand même de couvrir différemment l'émission dans notre émission de radio annuelle que l'on fait au sein du THSF. Plus de détails sinon sur le THSF lui-même, c'est l'article d'Amaël Guidon a fait dans Libération, c'est page 16 dans le numéro d'aujourd'hui, si vous voulez en savoir un petit peu plus, si vous ne pouvez pas venir. Sinon on a toujours plein de photos, plein de trucs comme ça à partager avec vous et pour le coup beaucoup de choses. Merci à tous, on va rendre l'antenne. Prochain direct sur l'éphémère dans une heure, si je me trompe. Hein ? À 17h, oui, mais c'est à toi de parler, Eugène.
C'est à 17h, en direct d'Indélébile à La Chapelle.
Voilà, donc on repart tout aussi vite et en même temps, n'hésitez pas à venir au Crypto Party, c'est accessible à tous. On essaie de faire en sorte que ce soit accessible à tous. Là, on n'a pas pu faire les questions du public pour différentes raisons, mais n'hésitez pas à venir. C'est un événement où on est là pour vous aider, pas pour vous dire qu'on est les meilleurs. Ciao à vous, bye bye, et moi je vous donne rendez-vous dans l'émission de Gênes le mercredi à 18h30 en moyenne pour ma chronique dans l'hallucinarium éphémère. Ciao, plus et merci, de rester à l'écoute sur Radio FMR.